Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Bienvenue dans votre magazine Okapi Service, l'émission qui traite les questions de la vie au quotidien. Quelles sont les barrières socioculturelles qui freinent l'émergence des femmes congolaises de faire une carrière honorable dans la vie politique? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Madame Faïla Mwangila. Elle est fondatrice du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous, Madame Mwangila.
Bonjour, mais merci beaucoup.
Nous aurons également le professeur Thierry Landou qui est en train d'arriver. Il est enseignant à la faculté des lettres de l'université de Kinshasa dans le cadre de ces sujets. Et si ce thème vous intéresse, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, témoignages et suggestions au numéro 099-706-9941. Il est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple le commentaire de Kachayi qui nous a écrit depuis Kanyoka. Nous sommes là dans le Kasaï central. Cet internaute nous dit ceci: le régime de Tshisekedi a encouragé l'émergence des femmes congolaises en les nommant au poste stratégique du pays. Quoi qu'il en soit, les femmes congolaises sont toujours tout naturellement assujetties au complexe d'infériorité, d'incompétence et d'insuffisance. Elles ont toujours besoin des hommes à leur côté et la culture congolaise est loin de considérer véritablement la femme et l'accepter. Nous entendons également vos suggestions dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui y anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Naomi Moutokie s'occupe de la réalisation de cette émission. Deb Sevita est à la prise des sons et Meshak Mboutamountou s'occupe pour sa part de l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelles sont les barrières socioculturelles qui freinent l'émergence des femmes congolaises de faire une carrière honorable dans la vie politique? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service. Chers auditeurs et auditrices, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. L'état de la femme politique en RDC reste marqué par des avancées législatives encourageantes, mais aussi par des stéréotypes persistants, des préjugés sexistes et des obstacles socioculturels qui freinent leur pleine participation à la vie politique. Et selon nos sources, les femmes occupent seulement 10% des sièges à l'Assemblée nationale et 27% des postes et des décisions au niveau national, à telle enseigne que la participation politique des femmes a même diminué entre 2006 où il y avait 13,66% de participation des femmes aux élections. Et en 2018, on a noté 11,7%. Les femmes sont souvent perçues comme émotionnelles, moins compétentes ou moins légitimes dans les sphères politiques dominées par les hommes selon plusieurs sources. Comment alors encourager les femmes congolaises à prendre part active à la vie politique du pays. Et quelles sont les barrières socioculturelles qui freinent l'émergence des femmes congolaises de faire carrière honorable dans la vie politique et comment y remédier? Nous en parlons avec nos invités. Madame Faïda, vous partagez ce constat avec nous, qu'il y a vraiment un problème en termes de participation active des femmes dans la vie politique de la nation congolaise.
Merci beaucoup, Monsieur Tati. Je confirme qu'il y a un vrai problème, même pas un vrai problème, il y a un sérieux problème. Et il y a un sérieux problème, nous allons y revenir, mais sinon nous sommes là pour expliquer.
Oui, qu'est-ce qui démontre la sérieuxité de ces problèmes-là? Parce que il y a déjà de plus en plus, des femmes occupent des postes et des responsabilités. On a une dame qui est première ministre, même au sein du gouvernement, il y a aussi des femmes au Parlement, bien que les données statistiques ne sont pas assez intéressantes.
Merci beaucoup. Il est vrai que la première fois qu'on est comme femme au niveau du gouvernement, comme chef de gouvernement, une femme, c'est avec l'avènement de la première dame que nous avons avec à la tête des institutions, le président de la République et Étienne Tshisekedi. C'est la première fois. Mais cela ne suffit pas. Avoir une femme, mais il faut pousser avec cette logique-là. On ne peut pas comprendre comment un pays qui a adopté depuis plus bientôt 20 ans, parce que c'est en 2006 avec la Constitution de 2006 qu'on a adopté la disposition de principe de parité inscrit dans la Constitution à son article 14. On ne peut pas comprendre 19 ans après, on n'arrive pas à voir la matérialisation de cet engagement, de cette volonté politique. Et c'est là que nous nous disons, il y a un problème. Il y a un problème dans le sens que les dynamiques politiques au niveau de notre pays, les dynamiques ont toujours été dominées par les hommes. Nous sommes dans un système patriarcal. Donc tout ce qui est politique, ça appartient à l'homme. Mais maintenant, changer cette compréhension-là et arriver dans la matérialisation, ça pose problème à la fois au niveau du législateur congolais, même au niveau de la société, parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir et c'est le peuple qui élit ses représentants au niveau des institutions. Donc, il y a une responsabilité à la fois au niveau institutionnel, mais aussi au niveau sociétal.
Mais en termes de la réglementation, il y a quand même des avancées, madame.
Des avancées dans les textes ne signifient pas avancées. Nous voulons voir la matérialisation de ces avancées-là. Vous savez, si vous nous donnez comme femme première ministre, mais dans le vécu quotidien des populations, les femmes sur terrain nous observent et sont strictes avec nous comme activistes des droits des femmes. Ok, Madame Faïda, vous avez avancé dans les textes. Moi, une femme qui vend dans le marché de Matadi Kibala, j'ai avancé en quoi? Parce qu'il y a, ça fait 30 ans que je vends les piments. Et jamais j'ai transformé mes piments. J'avance en quoi? Donc, il y a des sérieux problèmes et nous devons en prendre conscience à tous les niveaux.
Professeur Thierry Landou, vous êtes enseignant à la faculté des lettres de l'université de Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour.
Est-ce que réellement il existe des stéréotypes qui freinent le développement ou la participation active des femmes en politique ici en RDC, du point de vue sociétal?
Bon, les stéréotypes existent, et puis c'est pas seulement pour les femmes. Il y a des stéréotypes aussi pour les hommes. Moi, je crois qu'il faut replacer tout ceci dans la capacité des uns et des autres à se mettre au courant des stéréotypes, à les combattre, et à faire en sorte que ces stéréotypes ne deviennent pas un frein pour nous tous.
Pouvez-vous nous énumérer quelques cas, exemples concrets?
Il y a des exemples sexistes qui sont là. Madame vient de mentionner le fait que la politique c'est pour les hommes, mais la politique c'est pas pour les femmes. En fait, l'espace public c'est pour les hommes, mais l'espace privé c'est là où la femme pourrait se déployer. Vous avez aussi des... Mais il y a aussi des préjugés positifs qui arrivent, par exemple, pour les femmes, en disant, bon, la femme est meilleure gestionnaire que l'homme. Hein, c'est ce qu'on dit, non, de manière générale.
Dans les ménages.
pas seulement dans les ménages, on dit même en politique, lorsqu'on l'offre, on leur offre une fonction politique, en principe, nous nous attendons, nous les autres, à des effets positifs, parce qu'on sait que ce sont de bonnes gestionnaires, ce sont de bonnes mères de famille. Il y a des stéréotypes comme ça qui existent dans la société, et je crois que c'est le propre de toutes les sociétés. Mais seulement, il faut les combattre. Mais pour les combattre, il y a l'aspect législatif, c'est vrai. Mais le drame chez nous, c'est que le législatif, souvent, il se limite au texte.
Il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement ou d'application
mais,
de ces lois.
C'est pas le mécanisme d'accompagnement, mais il y a comme un aspect purement formel. Hein, sur le plan formel, on dit, bon, voici les textes de loi, on a fait des avancées, on a la parité, on fait même une loi électorale où on édicte des articles pour dire que la femme peut participer, la femme peut faire... Mais quand tu lis parfois certains articles, tu es surpris de voir que dans un article qui est bien énoncé, qui est bien mielleux, on met juste une petite incise à l'intérieur et ça change tout. Hein, vous avez, je crois que c'est en 2011...
En 2011.
Oui. Il y avait cet article qui disait que les femmes, qui permettait aux femmes de participer, mais à l'intérieur, il y avait une petite incise qui disait s'il s'y est.
Si c'est possible.
Oui, mais en même temps aussi, Madame Faïda, c'est parce que la femme aussi ne se donne pas d'une manière active dans la vie politique du pays.
Qu'est-ce que vous dites? Ces données, c'est quoi? Mais qui porte le lourd tribut de tout ce que nous vivons? C'est la femme. Vous nous voyez sur terrain, même à Vena ici. Nous venons, quand vous nous appelez, nous venons nous expliquer à la population, donner les informations. Oui. Mais si au niveau communautaire, il n'y a pas déconstruction de ces préjugés-là, de ces préjugés, vous avez des problèmes. Parce que quand vous dites préjugé, c'est déjà un jugement à l'avance. Donc vous dites tout simplement et lokoyo et bongina mibali. Donc comme pour dire cette histoire c'est propre aux hommes. Mais cela veut dire lorsque nous allons aux élections en compétition électorale, la population elle-même s'est dit mais non, cette femme pourquoi elle doit venir nous parler comme ça? Qu'est-ce que d'ailleurs elle va changer? Et on a toujours la communauté à un jugement très négatif contre une femme. Vous avez vu, à un certain moment, nous sommes montés au créneau, on a commencé à critiquer la politique de l'actuel premier ministre, Toulouka. On dit, voilà, elle ne fait rien. Moi, je dis, mais est-ce que c'est elle qui doit faire mieux ou c'est l'ensemble gouvernementale du gouvernement? Voilà ce que les gens n'arrivent pas à dissocier. Donc, mais ce qui est plus important est que les femmes sont là. Et nous continuons à les mobiliser en disant il faut y aller. Et nous sommes fiers lorsque nous apprenons que dans une telle circonscription électorale, les gens n'en parlent pas beaucoup. À Bassoko, dans la province de la Tchopo, le 2 sièges étaient remportés par femmes. Des femmes. Donc c'est pour vous dire que les femmes ne croisent pas les bras, elles se battent, mais elles rencontrent des obstacles institutionnels, des obstacles économiques, des obstacles socioculturels.
Mais en même temps, les données statistiques de la CENI, lorsqu'on fait une analyse comparative, celle de 2006, il y avait une participation de 13,6% des femmes, et en 2018, c'est 11%, donc il y a régression.
Il y a régression, il faut comprendre pourquoi il y a régression. Lorsqu'il y a une partie du pouvoir, donc un groupe politique, c'est dit, je me retire des élections. Ce qui veut dire que nous perdons des femmes qui avaient aussi des moyens pour se battre, parce que en RDC, gagner les élections, c'est un chemin de dur labeur. Donc, il y a des femmes qui avaient leurs moyens, qui pouvaient se présenter aux élections, mais pour des raisons politiques, je ne les juge pas, et se sont retirées. Et d'autres qui sont venus n'avaient pas de moyens. Vous ne pouvez pas vous dire vous allez gagner les élections à RDC si vous ne réunissez pas un paquet. Parce que d'ailleurs, vous êtes devant une population trop pauvre et qui s'est dit, moi je les attends aux élections. J'attends ces candidats qui ne changent pas notre vie et nous allons les sanctionner. Il ne s'agit pas seulement des femmes, même des hommes qui devraient passer mais qui ont été sanctionnés par la population. Donc, c'est pour vous dire que les femmes se mobilisent, mais nous devons continuer à en faire plus parce que ce que nous voulons, c'est d'avoir des lois contraignantes. Et là, le problème doit se résoudre. Vous ne pouvez pas donner avec la main droite et vous retirer avec la main gauche en disant oui, la participation des femmes, mais sinon la non-représentation de façon égalitaire des femmes sur les listes électorales ne constitue pas un motif de rejet. Là, vous donnez tout le pouvoir aux opérateurs politiques d'éliminer des femmes là où elles savent qu'elles peuvent passer. C'est ça la réalité que nous rencontrons et nous parlons, nous dénonçons tous les jours les violences liées au genre. Nous continuons à les dénoncer.
Professeur Thierry Landou, je voulais dire qu'il y a, aussi, en termes de représentativité, c'est vrai qu'on n'a pas encore atteint les stades de la représentativité hommes-femmes dans les postes de responsabilité de la République, mais il y a quand même une avancée notable dans le gouvernement, au sein des institutions de la nation congolaise. De plus en plus, il y a des femmes qui occupent des postes de responsabilité, ça nous devons le reconnaître.
Oui, mais je crois qu'il faut, pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faut peut-être remonter un peu... au préjugé fondamental que nous avons. Hein, c'est d'être dans une société patriarcale où en femme, en fait, on nous dit que la femme n'a pas de place. Et on replace cette analyse même dans le contexte traditionnel. Parce que vous avez parlé du socio-culturel. On est parti même dans notre société traditionnelle pour affirmer que les femmes, en fait, dans la société traditionnelle, elles n'avaient aucun rôle à jouer dans l'espace public. Et là, moi, j'ai dit non, il y a des études qui doivent être menées. Parce que c'est faux. Hein? Au niveau de nos traditions, nous avons connu des femmes fortes. Hein? Vous avez la Jeanne d'Arc. Okay? La Jeanne d'Arc africaine. Vous avez... moi, j'ai vécu un phénomène immense chez les Baboa, où la femme... on l'appelle la femme Ekopi Molo. Ekopi Molo, c'est le léopard mâle. Hein? Et la femme domestique le léopard mâle. Et en domestiquant le léopard mâle, elle domestique le symbole du pouvoir masculin. Et là, elle devient très forte, parce que le léopard peut aller chasser pour elle, le ramener de la nourriture, et avec la nourriture, elle peut rassembler les gens autour d'elle pour manger, pour boire, pour influencer les jeux politiques et intervenir en interne dans le jeu politique. Donc, ça signifie que quelque part, cette femme-là savait comment ça fonctionnait et qu'elle est entrée dans le système et jouait dans ce système-là. Et le problème, c'est que lorsque le colon arrive, dans ces milieux-là, les chefs coutumiers, qui étaient des hommes, eh bien, les hommes qui ne voulaient pas partager le pouvoir ont fait quoi? Ils ont présenté ces femmes-là comme des sorcières. Et la plupart d'entre elles ont été éliminées par le pouvoir colonial, qui lui-même était très patriarcal. Hein? Donc, il faut pas rêver non plus. Le système patriarcal, c'est pas seulement en Afrique, en Europe aussi, c'est la même chose.
Exactement.
Alors, maintenant, si vous dépassez cette étape-là, vous pouvez faire une analyse. J'ai toujours posé la question aux gens, par exemple, sur la violence dans l'armée. Hein, l'utilisation de la femme comme arme militaire. Moi, j'ai dit, mais on associe ça souvent aux rebelles. Mais moi, j'étais enfant en 63. Mais au fur et à mesure que j'ai lu des ouvrages, je me suis rendu compte que même dans la rébellion, il y avait une figure forte. C'était une femme, Maman Onema. Et c'est Maman Onema qui fabriquait la potion magique qui rendait les rebelles invincibles. Comment voulez-vous qu'une femme qui fait ces potions-là donne aux militaires pour être invincible et que ces militaires s'attaquent aux femmes? C'est fini, ils perdent leur invincibilité. Vous voyez? Donc cette femme-là, à travers cette activité, elle a réussi à contrôler le pouvoir masculin parce que c'était elle qui leur donnait la potion magique. Donc il y a comme ça des faits qui montre que cette femme-là a joué des rôles importants sur le plan. Et le meilleur exemple, c'est dans l'Empire Lunda. Et l'Empire Lunda, on nous dit que la première ministre, c'était une femme. Et l'Empire Lunda, on en parle comme ça, vaguement. Mais ça s'étendait du Katanga en passant par la Zambie, l'Angola jusqu'au Congo ici.
Exactement.
C'était un grand empire.
Tout à fait.
Et la première ministre, c'est une femme, c'est Rouège. C'est pas un homme. Et on ne met pas suffisamment l'accent là-dessus. Alors maintenant, quand vient la colonisation, c'est ce que... Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question de la présence des femmes dans les sphères politiques et tout ça. Mais quand vient la colonisation, posez la question, bon, quelles sont les écoles qu'on a pour les femmes? Moi, ma mère était à l'école ménagère. Elle apprenait à tricoter, à réparer les chaussettes trouées de mon père. Ok. Alors, quand arrivent les indépendances, c'est presque vers cette période-là qu'on commence à créer les premières écoles de jeunes filles. Hein? Et au moment des indépendances, quand on donne le pouvoir aux Congolais, Mais qui peuvent avoir accès au pouvoir? Ceux qui maîtrisent la langue du colon.
Exactement.
Ceux qui ont été à l'école du colon. Oui. Et les femmes n'avaient pas été à l'école à ce moment-là.
Exactement.
Elles tournaient encore. Et on a eu les premières femmes, effectivement, qui ont commencé à émerger. Mais c'était pas un grand nombre. C'était difficile. C'est pas propre à notre tradition. C'est propre à une étape de notre
existence. Et si je dois, Tati, si je dois compléter le professeur, moi je parle de ma culture, la culture Lega, que vous trouvez dans le Nord, Kivu, le Sud, Kivu, le Maniema. Et je vous assure, la femme a le pouvoir. Vous arrivez dans l'espace Lega, vous injuriez votre maman. Je vous assure, vous mourrez le soir. C'est ça la réalité de la culture Lega. La culture Lega, personne, même les colons n'ont pas réussi à la renverser, pas du tout. La femme a sa place, on l'appelle Mutamba. Bon. Mais non. Alors, mais tout cela, nous arrivons, on vous met à côté, on ne sait pas vous exploiter, alors que ça a un lien avec le développement.
Tout à fait.
La présence de la femme dans la société a un lien direct avec le développement. Et comme on a mis cela de côté, regardez notre sort aujourd'hui. On ne sait pas avancer. Regardez la ville de Kinshasa. Vous pensez vraiment que si on confiait la responsabilité en termes du pouvoir économique et de pouvoir politique, vous pensez que notre vie ne va pas changer dans cette
Madame,
ville?
Madame, vous étiez il y a quelques années au gouvernement.
Oui.
Est-ce que vous sentiez ça lorsque vous avancez des arguments?
On sentait ça. Je vous assure, lorsqu'on évoquait la question, par exemple, des violences sexuelles, paix à son âme, ses collègues est décédé. Il était ministre de la Justice. Mm. Mais maintenant, il me disait, toi aussi, tu parles des choses. Donc, il pensait que j'étais entrée. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas devant les hommes de viol, comme ça, c'est un langage de la société civile. Mais non, le viol, c'est une réalité. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des viols domestiques. On doit tout faire pour prendre une loi, en tout cas réprimant les violences sexuelles. Donc, on vivait cela. Et les jours où j'avais présenté un document pour dire que le ministère ne peut pas évoluer sans infrastructure, vous devez intégrer le ministère de la Condition et Famille, comme on l'appelait avant, dans le budget PPT, donc pays pauvres et très endettés. Mmh. Il faut l'intégrer. Et tout le monde a dit... Oh, même les ministères disent, mon Dieu, vous ne savez pas que c'est le ministère qui gère la famille et qui doit avoir des infrastructures. C'est difficilement qu'ils nous ont donné trois projets.
Alors que vous tous, vous veniez des familles.
Nous venons des familles. C'est vraiment difficilement qu'ils ont donné les fonds pour construire le centre qui se trouvait, le bâtiment qui se trouve au centre. Mais enfin, au Nord Kivu, même au Maniema, la maison de la femme. Donc, c'est pour vous dire que quand une femme intervient, on pense qu'elle doit intervenir seulement dans la distribution des vivres, quand il y a des catastrophes, ou quand il y a quoi, ministère des Jardins. Mais non! C'est le ministère, d'ailleurs, dans d'autres pays, qui a un plus grand budget, contrairement à chez nous, qui a le petit budget au niveau du trésor public.
Nous allons partir au standard parce que dans ces rendez-vous, nous donnons également la parole à la population et ils sont nombreux à appeler pour participer à ces rendez-vous. Quelles sont les barrières socioculturelles qui freinent l'émergence des femmes congolaises de faire carrière honorable dans la vie politique? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Et si ces thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Le premier auditeur, il intervient depuis la ville de Lubumbashi, il s'appelle Achille. Maître Achille, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour Tati, bonjour à tout le monde.
On vous donne la parole. Soyez bref et concis.
Merci pour la parole. Tout à fait, je suis bref alors. Parmi les freins, je pense qu'il faut aussi noter l'éducation. Quelqu'un peut avoir, une femme peut avoir la
des
volonté
ambitions.
De faire de bonnes études, de se réaliser, une bonne carrière dans la politique, mais il se retrouve coincé par manque de moyens. Ici, je voudrais dire quoi? Essayez de voir parmi les femmes qui ont été nommées au poste du portefeuille de l'État, la plupart de ces femmes-là ont fait leurs études à l'étranger. Alors, tout le monde n'a pas le moyen d'aller faire des études à l'étranger. Pas seulement que dans ces nouveaux gouvernements, même dans les anciens gouvernements qui sont passés, si vous essayez de voir, même les hommes, même les femmes, la plupart ont fait leurs études à l'étranger. Alors ça, c'est parmi les freins. Un autre problème, c'est aussi les destins. Vous savez, quelqu'un peut décider d'être à tel ou tel, mais alors le destin peut décider autrement. Un autre problème que la dame, votre invitée, est en train d'ignorer, c'est aussi la problématique de la compétence et aussi la passion. Est-ce que la femme elle-même est passionnée à faire cette vie politique? Parce qu'ici, je voudrais la prendre à témoin. Pendant que nous sommes en train de passer cette émission qui concerne la femme, nous verrons d'ici la fin de cette émission combien de femmes vont appeler pour donner leur argumentation.
Alors, nous profitons de l'occasion pour inciter les dames à appeler et à témoigner également.
Ouais. Un autre problème, c'est l'harcèlement sexuel. Les récents cas, c'est les cas de Balthazar. Vous savez, aujourd'hui, si Dieu nous ouvre les yeux et voir ce qui se passe dans le monde du travail, dans le monde politique, je pense que beaucoup de mariages seront rompus. Ça, et j'ai reçu même un témoignage d'une dame qui m'en avait parlé, et elle avait cessé, elle fait autre chose. Donc, ça, c'est parmi les freins. Parce que vous savez, pour préserver la dignité, la femme se retrouve coincée, alors elle s'est dit non, j'abandonne.
J'arrête.
Et peut-être aussi l'homme préfère les retirer pour préserver sa dignité. Un autre problème, c'est qu'il y a les freins des maris. Les maris, très souvent, assez souvent, les femmes n'ont pas assez de temps pour s'occuper, n'est-ce pas, de leur mari. Alors, pour cela, les hommes préfèrent les retirer. Bon, pour être un peu bref, voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Bonne émission.
Merci beaucoup, M. Achille. Nous rappelons que c'est depuis Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, nous partons à Kisangani, où nous allons donner la parole à M. Blaise. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, cher Jody. Bonjour aux invités, tous au studio de la Radio Capi.
Nous vous donnons la parole.
Cher Jody, je vais commencer un peu par une information complémentaire à ce que l'un des invités avait parlé concernant l'Empire Lunda.
Soyez bref et concis, s'il vous plaît. Il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Oui, oui. Ok. Lui dit, fit successeur à son père, puisque cet empire était créé par Yala Mwaku, succédé par Mwaka Konde, et Mwaka Konde avait deux garçons, Chingule Tinyama, ainsi que Luedi. Vu que non, les deux garçons avaient l'esprit de cruauté, et le père avait laissé le pouvoir à sa fille Luedi. Je me limite à ce niveau-là pour prendre maintenant la thématique du jour. Briser ces obstacles concernant les femmes nécessite une action concertée. Éducation égalitaire, sensibilisation, réforme institutionnelle et promotion active du leadership féminin. L'inclusion des femmes en politique de justice sociale, mais un impératif pour un développement démocratique et équilibré de la République démocratique du Congo. Je dois aller tout juste à quelques questions aux invités. La première question. Quel rôle le parti politique devrait-il jouer pour briser les réseaux masculins fermés et inclure davantage de femmes? La deuxième question, comment les organisations de la société civile peuvent-elles contribuer à lever les barrières socioculturelles contre l'engagement politique des femmes? La troisième question, comment les femmes politiques congolaises peuvent-elles se protéger contre les harcèlements et la diffamation en période électorale? Et pour chuter, quelle stratégie permettrait de créer des réseaux solides de femmes leaders en RDC? Voici les quatre questions que les invités peuvent nous aider, cher Tati. Merci.
Merci beaucoup, M. Saïdi. Des questions très pertinentes. Excellente journée au niveau de la ville de Kisangani. Nous sommes là dans la Tchopo. On retourne ici à Kinshasa pour donner la parole à Maître Omar Kigalo, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, M. Tati. Bonjour aux invités.
Bonjour.
Oui. Merci beaucoup, M. Tati, du verbe que vous m'accordez. Pour compléter, madame, à part l'article 14 de la loi fondamentale, il y a aussi une loi qui a été votée en 2014, la loi qui met en œuvre la parité. À part cette loi, il y a encore plusieurs textes internationaux, dont je la reviens lorsqu'elle dit que c'est légalisé. Mais je suis pas d'accord avec elle lorsqu'on parle des avancées. Aujourd'hui, quand même, il y a une avancée significative. On a une première ministre dame, on a une ministre des Affaires étrangères qui a brillé par ses prouesses, On a beaucoup de députés, beaucoup de sénatrices.
Non, mais Maître Omar, oui. En termes, si on fait, en termes de données statistiques, si on fait une estimation, c'est le jour et la nuit, hein, en réalité.
Merci quand même de la précision. Mais je disais, minime soit-il, on a quand même observé un progrès. Mais j'y prends en compte votre bilan. Mais madame, il y a un problème sérieux. Je crois que c'est la première barrière. Les différentes lois que j'ai citées n'ont pas offert la parité à la femme comme un gâteau sur un plateau. Non. Pour que la femme soit soumise à la première ministre, elle a mérité, elle est compétente. Pour que Tina Salam soit porte-parole du président, elle est éloquente, elle est intelligente. Ça, c'est la première barrière qui fait que les gens freinent. Quand on dit parité, on dit 50-50. Donc, s'il y a 50 hommes à l'UDPS, il doit aussi avoir 50 femmes à l'UDPS. Non. Il ne faut pas seulement être femme pour baisser la parité. Encore faut-il être compétente. Ça, c'est la première barrière. Je m'en vais maintenant aux questions qui sont également des préoccupations. Madame Faïda, ne pensez-vous pas que la première barrière est plus mentale? Déjà au niveau de nos familles, de nos églises, de nos sociétés, on considère que la femme est faite pour le mariage. Comment on la traite? Même un papa à la maison, quand il parle de ses enfants, il voit la femme, il regarde la dot. Il y a déjà une pesanteur au niveau culturel. Comment contourner cela? Cette pesanteur éducative et culturelle qui considère la femme seulement au niveau du mariage. Deuxième préoccupation, c'est la méchanceté des hommes au niveau des partis politiques. C'est vrai, aujourd'hui, je suis membre d'aucun parti politique parce que pour moi, ça n'engage que moi, aucun parti politique au Congo n'est sérieux. Mais il nous est arrivé quand on était jeunes de fréquenter des partis. Les leaders sont souvent méchants. Pour accorder la place à une femme pour postuler, il faut coucher avec elle. C'est très méchant. Beaucoup de femmes ont cédé, d'autres ont résisté et sont parties. Ça, c'est une pesanteur sérieuse qu'on doit étudier. Les leaders politiques hommes ne favorisent pas. C'est dans tous les domaines de la vie. On va à la presse, même chose. On va au barreau, même chose. On va à la magistrature, partout presque. Donc, les leaders hommes, pour donner la faveur à une femme, même si elle est intelligente, même si elle est compétente, il faut qu'il y ait des faveurs sexuelles. Et comment contourner cela, Madame Faïda? Faut-il dénoncer ou faut-il sanctionner? Dernière préoccupation qui est aussi une question, il y a une certaine léthargie de la part des femmes elles-mêmes. Nous l'avons dit au début de notre intervention, pour être au même niveau que l'homme, il faut être compétente, il faut s'informer. Mais les femmes ne s'informent pas, elles ne veulent pas s'instruire. Alors, comment voulez-vous connaître la parité sur le plan significatif s'il n'y a pas assez d'instruction? Voilà, madame, mes trois questions. J'ai dit, je vous remercie que ce combat continue parce que la femme a les mêmes atouts moraux et intellectuels que l'homme. Si elle est formée, elle peut aussi faire mieux que l'homme. Merci beaucoup, M. Tati.
C'est très encourageant en conclusion. Merci beaucoup, Maître Omar. Hein. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous avez pris la parole. Professeur, nous allons commencer par Achille. Comment répondez-vous à ces questions? Il a fait allusion à l'éducation depuis les temps jusqu'à nos jours. Au niveau de la famille, généralement, on encourageait les garçons. À aller à l'école que les filles, cela a des incidences aujourd'hui sur la participation active de la femme aux affaires de la nation, même en politique.
Ben, écoutez, on ne nie pas que l'espace familial ne soit pas un espace où se créent tous ces préjugés. Hein, de par la culture que nous avons au sein de ce milieu-là, au sein de cet espace, le premier espace, en fait, qui est considéré comme la première cellule citoyenne. Hein, c'est-à-dire, au sein de la famille, nous avons déjà dans des relations entre hommes et femmes, des relations qui ne sont pas égalitaires, nécessairement. Je dis nécessairement. Mais ça ne signifie pas que nous n'avons pas de famille dans ce pays où ces relations-là sont égalitaires. Hein? Donc, il ne faut pas non plus généraliser. On parle de compétences, mais c'est justement là le préjugé. C'est que quand il s'agit des femmes, on parle de compétences. Mais quand il s'agit des hommes, on en a vu beaucoup qui n'étaient pas très compétents, mais qui se retrouvaient dans les structures de gestion et tout ça. Et on a vu les résultats. Hein? Il y a toutes ces années de gestion de l'État congolais depuis les indépendances. C'était pas les femmes qui étaient responsables. C'était des hommes.
Oui.
Où étaient passées leurs compétences?
Et tout ça, c'était pas excellent.
Non. Et c'est ça qui commence à remettre en question, en fait, toutes ces questions. Vous savez, souvent quand on revient à la famille, c'est vrai, il y a des obstacles socio-culturels, mais il y a aussi, par exemple, un obstacle qui est la religion. Hein? Moi, je m'amuse à relire la Bible. Quand vous lisez la Bible, que j'écoute certains pasteurs qui enfoncent les femmes dans ces préjugés à partir du religieux. Et ça, c'est très fondamental dans une société comme la nôtre. Mmh. Hein, où on vous dit, par exemple, que la femme doit être soumise à son homme. Et à partir de là, nous pouvons construire tout le narratif. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas faire la politique parce que moi, je ne veux pas. Tu peux pas faire ceci parce que moi, je t'autorise pas. Tu peux pas. Et on oublie même que dans la Bible, lorsqu'on parle de soumission, la soumission n'est pas forcée. La non. soumission de la femme, elle est soumise dans la mesure où je l'aime. Parce que la suite de la phrase dans la Bible, c'est « Homme, aime ta femme hein? ». Et « Homme, aime ta femme », vous avez deux verbes là. Il y a le verbe « se soumettre » et le verbe « aimer ». Quel est le verbe le plus fort? Pour les chrétiens, c'est le verbe « aimer ». Parce que « aimer », c'est « aimer comme le Christ ». Ça signifie être capable de donner sa vie pour l'autre. On n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire que dans ce combat, parce que c'est un combat, et l'espace politique, c'est un espace de compétition. C'est un espace où on se bat. C'est pas un espace où on se fait des cadeaux.
Oui, il a également dit, évoqué, il a dit qu'il est aussi question des destins.
Parce ouais, que, bon, écoutez, moi, je crois pas beaucoup au destin. Excusez-moi, hein, je suis pas dans ce domaine-là. Mais je crois que, il y a dans les structures des partis politiques, en fait, il y a des vices, c'est connu. Hein, pour une femme dans un parti politique, c'est difficile d'évoluer là-dedans. Mais moi, je pose une question. Parce que on peut continuer à énoncer tous ces faits et tout ça. Ce qui serait important, c'est de voir quelles sont les pistes hein, que les femmes peuvent utiliser pour essayer de déclencher un processus qui serait qui irait dans le sens du changement. Vous savez, est-ce que les électeurs, enfin les électrices et les candidates, est-ce qu'elles sont au courant que une voix, une femme, les femmes sont élues partout?
Non, elles sont pas au courant.
Ah, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail là?
Hein? Il faut faire un travail là-dessus.
Il y a un travail énorme à faire là-dessus.
Il faut
que les femmes comprennent que une femme, une voix, eh ben, il y a des candidats, par exemple, sur le plan local, les élections locales et municipales. Mais ce sont les mamans qui sont à la base. C'est elles qui militent avec nous, qu'on connaît. Des candidates femmes qui seraient en train de se mouvoir dans cet espace-là, avec ces électrices qui sont conscientes de cela, ben, elles passent. Et les hommes ne le feront pas passer.
Madame Faïda, il y a des questions directes qui vous ont été posées par Maître Omar, hein, Kigalo. Ouais, ouais. On vous donne la parole.
Merci beaucoup, Maître Omar. Je te salue, mais tu es à Kinshasa. Et c'est là que je me dis que nous avons beaucoup à faire comme consultante et genre, comme activiste des droits des femmes. Parce qu'on pensait qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui sont organisées et que les choses ont évolué. Lorsqu'il dit qu'au sein des partis politiques, il y a des acteurs politiques, des dirigeants qui, pour faire passer une femme, doivent coucher avec elle. Non. Vous allez me dire que toutes ces femmes qui sont sur les listes des partis politiques, donc tu veux même dire que moi, pour avoir exercé des fonctions politiques, j'ai couché avec les hommes. Je te dis non, Marie. Non, Marie. Tout dépend de l'éducation qu'on a à partir de sa famille. Parce qu'aussi, je ne me rappelle pas aucun jour où un acteur politique ou un dirigeant ou qui m'a dit, Faïda, tu ne fais pas ça. Tout dépend de comment tu te présentes. Si toi tu viens dans un parti politique pour chercher les hommes ou faire tomber les hommes, moi je vais là-bas parce que je vais la tête de monsieur Thierry ou quoi, mais tu te laisseras faire. Et il faut pas dire, bon, les gens qui dénoncent souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas aimé. Il y a à boire et à manger. Oui, les harcèlements sexuels existent, mais nous devons les dénoncer. D'ailleurs, c'est ici l'occasion de proposer, parce qu'il y a une autre question. Qu'est-ce que les femmes doivent demander pour lutter contre les harcèlements? On peut développer des politiques d'inclusion.
Exactement.
On peut développer des politiques d'inclusion au sein d'une famille, au sein d'une organisation politique, et là, on va lutter contre les harcèlements. Pour savoir que je viens ici, n'importe qui, si vous êtes mon collaborateur, vous avez droit, parce que dans un parti politique tel que les partis politiques fonctionnent, s'ils existent, parce que ça appartient plus aux individus qu'un groupe de quoi. Donc, c'est tout ça le problème. Il y a pas mal de choses à dire, mais je vais le reprendre encore. Monsieur Omar, s'il te plaît, aidez-nous, parce que je vois que tu es engagé. Ce n'est pas un problème mental. Personne ne peut se dire, moi, je veux pas évoluer. On doit travailler pour l'épanouissement humain. Les ressources Les ressources d'une nation, c'est d'abord les ressources humaines. Et nous devons mettre l'accent là-dedans. J'en profite aussi pour répondre à une des questions, parce que, pas une question, on a évoqué quelqu'un parmi les intervenants, a dit d'ailleurs l'éducation, parce que beaucoup de femmes qui ont été nommées sont venues, ont étudié à l'extérieur. Pourquoi un tel langage? Vous voulez être complexé, vous voulez nous laisser vivre les complexes d'infériorité, nous qui avons étudié dans les écoles du pays.
Mais non,
la compétence ne dépend pas des pays ou quoi.
On peut d'ailleurs citer des noms.
Oui, je n'aime pas même citer.
Moi j'aimerais bien, parce que lui, tel qu'il parle, c'est comme si vraiment il connaissait pas.
Oui.
Mais Ndouzou Mboumbou n'a pas étudié à l'extérieur.
Pas du tout.
Hein? Madame Loukiana.
Pas du tout.
Hein? Maman Faïda.
Pas du tout.
Madame Eve Bazaïba.
Pas du tout.
Tina Salama.
C'est une fille qu'on a vu évoluer.
Mais oui.
À Bukavu et tout. Donc, tout dépend de l'engagement qu'on a. L'essentiel, c'est que la femme qu'on met à la place qu'il faut soit à mesure alors de rendre service à la population, parce que la politique doit être à mesure de rendre service à la population. Et c'est ça notre élite. Non seulement que nous militons pour qu'il y ait beaucoup de femmes dans les instances décisionnelles, mais nous militons pour que ces femmes apportent les changements positifs dans la gouvernance de cette nation, parce que en tout cas, on a pas mal de défis. Donc, mais pour les questions comme de qu'est-ce qu'on doit faire, nous devons continuer à éduquer notre population. Et là, vous avez tout à fait raison. Nous devons continuer à travailler, encourager les femmes pour dire, ne vous découragez pas. Mais nous devons aussi encourager les hommes à faire mieux, à travailler avec les hommes. La question de la participation politique de la femme ne peut pas se résoudre avec les femmes elles-mêmes, mais avec les hommes, des hommes engagés.
Exactement.
Et moi, je me retrouve dans ces débats avec le professeur Thierry. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé cette lutte pour accompagner les femmes. Il y a des années, même quand on était au gouvernement, il y a 20 ans, en 2003, 22 ans maintenant, nous étions toujours avec le professeur Thierry, et qui est disposé. Je pense que si tous les hommes réfléchissaient dans ce sens-là, les choses changeraient, parce que vous dites ce n'est pas un gâteau. Nous n'avons jamais demandé un gâteau. Jamais. Jamais. La personne qui a dit ça, que la personne comprenne que ce que les femmes demandent, compétence égale, travail égal. C'est ce que nous réclamons, et nous n'avons pas besoin de trouver cela comme un moyen de faire passer des personnes qui n'ont pas la capacité de travailler ou de rendre service à notre population.
On retourne au standard, madame, professeur, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui veulent également prendre la parole. S'il vous plaît, lorsqu'on vous donne la parole, soyez bref et concis, hein, parce que les temps passent vite et les invités aussi ont des informations à avancer. Nous partons à Mbandaka pour donner la parole à monsieur Papi Mboyo. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Merci, monsieur Tati. Merci vraiment aux intervenants. Merci à tous les auditeurs de la place.
On vous donne la parole.
Merci beaucoup, monsieur Tati. Je suis à Mbandaka. C'est vraiment une thématique qui nous a vraiment touché et frappé. Je crois, si je peux faire des petites observations après de passer à mes petits soucis, si vous le permettez.
Non, les temps, on est coincé par les temps, s'il vous plaît. Allez-y, posez une question directement, c'est mieux.
Bon, ok, merci beaucoup. Bon, la question est de savoir, pourquoi est-ce que les femmes entre elles, vous allez voir qu'ils ne s'aiment pas. Même moi, je vous dis que je suis à la maison ici avec mes deux filles. Mais entre elles, il y a toujours des problèmes que je suis en train d'arbitrer tout le temps. Mais pourquoi est-ce que cette histoire, nous on soutient les femmes, mais les femmes entre elles, même
ça
si une femme pose sa candidature, c'est difficile que l'autre femme puisse donner des voix à celle-là. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question. J'étais bien tantôt dans notre cours de genre et développement, en deuxième master, il y avait un enseignant qui était un prêtre qui me donnait ses cours. Depuis son introduction jusqu'à la fin, ne faisait que soutenir les femmes. Alors qu'il y a des questions qu'on lui posait. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas? Mais vous venez toujours soutenir les femmes. Il disait que non, même si on ne se marie pas, mais on a des informations, il y a des mariés qui viennent, dont la femme c'est une personne et il faut toujours continuer à soutenir. C'est ça la question de savoir. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours soutenir les femmes? Vous avez un problème avec les femmes, vous allez au tribunal. c'est la femme qu'on protège. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours protéger les femmes et non les hommes? Voilà une des petites questions que j'avais. Parce que vous n'avez pas voulu que je puisse te donner des observations.
Non, c'est
bien. Merci beaucoup, M. Ali.
Merci beaucoup à vous aussi, hein, M. Papi. Excellente journée au niveau de la ville de Mbandaka. On part cette fois-ci à Kisangani. M. Thomas, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, M. Papi. Et bonjour aux invités. Je m'en vais rapidement aux questions parce que le temps file rapidement et que les prédécesseurs ont déjà parlé. La première question, de façon concrète, quelles sont en tout cas les initiatives actuelles en RDC qui visent à promouvoir la participation des femmes en RDC? J'aimerais que la dame puisse bien nous expliciter quant à ça. De façon concrète, quelles
des solutions
sont les initiatives
concrètes
qui sont mises en place pour promouvoir la participation des femmes à politique. Deuxième question, M. Tati, quelles sont en tout cas les stratégies susceptibles de poser la confiance à soi des femmes à politique en RDC? Parce que ça aussi, c'est un grand problème. Parce que pour entrer en politique, pour exercer en politique, il faut aussi avoir confiance en soi. Mmh. Et ça, par rapport à ça, quelles sont en tout cas les stratégies susceptibles de renforcer en tout cas la confiance en soi des femmes à politique? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est si nous aussi les hommes, on a une part de responsabilité. Je ne sais pas à quoi, quelle est en tout cas la part des hommes dans la promotion et la participation politique des femmes en RDC. Quel est en tout cas le rôle que jouent également les hommes dans la promotion, dans la participation politique des femmes? Je fais ça mes trois petites consultations parce que nous saluons quand même, il y a des femmes dans ce pays qui ont travaillé, par exemple, la ministre des Affaires étrangères, là, il y a aussi Fifi Masuka. On sait quand même, il y a des femmes qui on veut avoir autant de femmes là, partout à travers les pays, pas seulement si la femme, si c'est quelqu'un qui est en dit, on veut avoir beaucoup de femmes, même les vitesses là, on voit quand même, il y a des femmes qui sont là. Également, les hommes, nous aussi, on est là pour les accompagner, pour les appuyer également, parce que ça l'aide aussi des hommes, c'est là aussi va créer un problème. Nous aussi, on a une part de responsabilité.
C'est très, très encourageant, votre conclusion. Merci beaucoup, monsieur Thomas. Nous rappelons que c'est depuis Kisangani que vous intervenez. On rentre ici à Kinshasa pour donner la parole à Monsieur Mbongo. Maître, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour et merci beaucoup.
On vous écoute.
Voilà, je vais être très bref à madame. Madame, dans la sphère décisionnelle,
mais la communication, la qualité phonique n'est pas bonne. Maître, mais s'il vous plaît, vous avez activé le haut-parleur de votre téléphone. La liaison phonique n'est pas bonne.
Ok, merci.
Voilà, là c'est bon, allez-y.
Ma préoccupation s'adresse à madame. Pensez-vous, madame, que la présence accrue des femmes dans les sphères décisionnelles peut transformer la qualité des politiques publiques et la gouvernance de l'État et de toute manière? Merci beaucoup.
Excellente journée au niveau de la ville de Kinshasa, maître. Professeur, en termes de solutions, parce que les temps s'égrènent vite, on peut y aller en termes de solutions avant que l'on puisse donner la parole à Madame Faïda. C'est à vous qu'on a posé beaucoup plus de questions là.
Oui.
Ben, écoutez, moi je crois qu'il y a une boutade hein, que l'on utilise souvent, qui est un proverbe d'ailleurs. C'est que la relation entre les hommes et les femmes au niveau de la société, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Hein, vous avez un oiseau et l'oiseau a deux ailes. Et les deux ailes doivent battre au même rythme pour permettre à l'oiseau de décoller. Lorsque une aile ne fonctionne pas, cet oiseau-là reste seul.
Oui.
Et la question qui émerge, c'est que est-ce que la société congolaise, que ce soit la société politique ou la société culturelle ou même de développement, est-ce qu'elle n'est pas au sol justement parce que l'autre aile qui peut permettre à l'oiseau de voler ne vole pas, ne bouge pas?
Je suis tenté de vous donner raison, professeur.
Ne bouge pas. Et lorsque vous comparez avec les sociétés, par exemple, de l'Europe du Nord, Hein, des pays comme la Suède, le Norvège, le Danemark, où on va vers cet équilibre, l'Allemagne, vers cet équilibre entre hommes et femmes dans les espaces publics. Il n'y a pas seulement l'espace politique, hein, parce qu'ici on dramatise sur l'espace politique, mais il y a des espaces publics. Et la présence de ces femmes a montré que ça pouvait changer justement la politique. Parce que d'abord, dans un premier temps, la femme est très accrochée à sa famille. La femme est très accrochée à son mari. La femme est très accrochée à ses enfants. La femme est très accrochée au bien-être de tous ses membres de famille.
La famille, c'est la cellule de base d'une
société. Et la famille, c'est la cellule de base d'une société. Et c'est là que, quand on dit sur le plan stratégique, moi je crois que sur le plan stratégique, le lieu où il faut aller jouer dans un premier moment, c'est la famille. Et c'est dans cette famille qu'il faut retrouver toutes ces valeurs d'égalité. Mmh. Hein, parce que la Constitution nous dit que nous sommes des égaux. Mais
dans la pratique...
Mais on vit ça où? On vit ça où? Par exemple, dans la famille. Hein? Même la maman qui est dans la famille, parfois aussi. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience de cela. Mmh. C'est que la mère répète aussi le même modèle d'éducation qu'elle aurait reçu dans sa famille. Mmh. Où on dit à la jeune fille, bah, t'as la carte mobile, il n'a mis sauté. Qui dit ça, il y a zéroloba. Yo, où tu as pu, moi, non? On revient de l'école, nous, on jette le cartable, on va jouer au foot, mais elle Faïda doit aller à la cuisine. Mmh. Elle doit préparer, il faut que, elle vienne nous appeler quand elle est prête. Donc, c'est comme ça qu'on a même réparti les travaux ménagers. Les garçons ne balayent pas, ne lavent pas les assiettes. Mais tout ça est en train de changer. Ouais. Ça change.
Et il faut que ça change.
Il faut que ça change.
Et merci beaucoup, professeur Thierry Landou. Nous sommes coincés par les temps, excusez-nous. Le sujet, c'est vrai qu'il a le goût d'inachevé. Ce n'est qu'une partie remise. Hein. Madame Faïda, en conclusion, parce que même pour répondre aux questions d'auditeurs, là, on est coincé par les temps.
Je vais conclure en même temps. Merci beaucoup, monsieur Mboyo. Les femmes ne s'aiment pas. Les hommes ne s'aiment pas aussi. Après les élections de 2018, le président Tshisekedi et le président Kabila sont des femmes.
Non.
Ce sont des hommes.
Oui.
Est-ce qu'ils s'aiment? Alors, il ne faut pas nous distraire avec des préjugés comme on l'a dit tout au début. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester constante et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons les mentorats et d'ailleurs nous avons un petit programme appuyé par l'ISDD, l'Institut des stratégies pour le développement durable, mentorat où nous formons des femmes et nous essayons de les amener et je suis fière quand je vois les résultats de ces mentorats. Nous avons quelques femmes qui commencent à se démasquer au niveau local, aux élections locales. Elles sont dynamiques même si on ne donne pas assez de moyens ou on ne donne pas du tout des moyens aux autorités locales, aux conseillères ou conseillers communaux, mais elle est là. Tu sens qu'elle a besoin d'évoluer. Donc, merci beaucoup aux hommes et aux femmes qui appuient la lutte pour la participation des femmes. Et les pays à travers le monde qui ont observé cela, ces pays ont connu le développement parce que la gestion des femmes est quand même différente de la gestion des hommes. Et là, je ne confirme pas qu'on ne peut pas avoir une femme qui a détourné. Il peut y avoir, mais en général, c'est des femmes qui s'affichent bien et qui se comportent bien au sein de notre communauté. Le débat vraiment est intéressant. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je reviendrai.
Et il faut aussi encourager les familles à envoyer les filles à l'école.
Les familles le font déjà. Et le papa qui suit l'émission avec ses deux filles, en tout cas, les familles le font déjà. Et c'est une bonne chose. Et là, c'est l'émulation qu'ils créent au sein de ces filles.
De la famille, oui.
Il y a beaucoup de familles qui l'ont fait et qui continuent à le faire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Madame Faïda Mwangila. Nous rappelons que vous êtes fondatrice du cadre permanent des concertations de la femme congolaise.
Et je suis plus responsable du bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement, un service technique qui appuie, qui accompagne les autres. Merci.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là.